Alors, on a abordé le problème législatif, on a abordé le problème des enfants, de la santé, et on a aussi le problème de l'habitat. Et on va laisser la parole à Florian Huyg de la Fondation Abbé Pierre, qui va nous dire beaucoup de choses là-dessus, de par leur expérience et leur intégration dans les bidonvilles.
Beaucoup de choses, je ne sais pas, mais en tout cas, on va essayer. Surtout que tout a été un peu dit, finalement, par les trois personnes, et puis... Prendre la parole après, c'est difficile. Je ne veux pas te décevoir et je ne parlerai pas de Rome, par contre, parce que je lisais les phrases de ma présentation et puis je vais la reprendre avec vous. Bon, pas la première ligne parce que je ne suis pas Alain Delon et que je ne me présente pas comme ça, mais il parlera des expulsions systématiques que subissent les personnes roms vivant dans les bidonvilles ainsi que de leurs conditions de mal logement. Personnes roms, je ne parlerai pas de Rome comme Manon ou Olivier l'ont dit, et Rome, celui qui vit en bidonville aujourd'hui en France. En tout cas, c'est comme ça qu'il est identifié. Or, on sait que c'est faux. Et puis, il y a des bidonvilles comme à Calais ou à Mayotte, comme le disait Manon. Je pense que la question, c'est que subissent les personnes vivant dans le bidonville. Et puis, sur les conditions de mal logement, il faudrait déjà que les conditions existent. Et elles n'existent pas. Il y a les photos derrière. Et puis, Médecins du Monde, ici, en fait... Juste derrière, et puis je ne voulais pas vous voir lever la tête trop. Et je pense que Livia a fait une grosse part sur ça. Donc je vais essayer de cadrer mon propos maintenant. C'est un peu loin. Notre entrée à la Fondation, elle n'est pas communautaire, comme j'ai pu le dire, elle est celle du mal logement de base. Et si on regarde les bidonvilles, on pense que c'est un symptôme du mal logement et pas une question communautaire, culturelle ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, vous allez sûrement le voir beaucoup dans les médias puisque notre rapport sort le 28 janvier, on compte 3,8 millions de mal logés et plus de 700 000 personnes qui connaissent des formes graves d'exclusion en France. Entre 2001 et 2014, 50% d'augmentation des personnes sans domicile en France. Oui, c'est assez important. Et on constate surtout des replis sur des formes de non-logement. Ces formes de non-logement prennent la forme de, c'est un peu répétitif, de camping à l'année, de personnes qui habitent sur le périphérique, ça, Christophe et les enfants du canal le savent, dans les tunnels, sur des friches. Et puis, on a vu la réapparition des bidonvilles ou campements illicites, comme les appellent les pouvoirs publics. Campements illicites, ça veut dire qu'on rend coupable des gens qui sont victimes, ce qui est assez étrange quand même, puisqu'ils sont exclus pour la plupart d'un accès aux droits communs. Pour l'anecdote, on parle d'occupation sans titre ni droit, ni droit sans titre, je ne sais plus trop l'ordre, mais en fait, il n'existe pas d'occupation sans droit. Et pour ça, on a fait un travail collectif avec pas mal d'assos et ici et de collectifs sur une charte du respect des droits et de la dignité des occupants de terrain, puisqu'il existe, à partir du moment où on occupe un terrain, des droits qui sont ceux de l'accès à l'eau, qui sont ceux du ramassage des déchets, voilà, et puis beaucoup d'autres. Je vous laisse lire la charte qui se retrouve sur pas mal de sites, le nôtre aussi. Donc... On se dit que tout ça part d'une crise du logement qui se base sur flambée de l'immobilier, non-adéquation des offres de logement au regard des revenus, surtout dans les zones tendues, des spécialisations de territoire, et qu'il y a des multiples conséquences dont je viens de parler. La DIAL compte pour les bidonvilles de 15 à 20 000 personnes depuis 2013. Aujourd'hui, on a 17 929 pour 582 lieux. En sachant que ces lieux sont des squats et des bidonvilles, on voit déjà que la DIAL a du mal à savoir de quoi elle parle. C'est pas pour jeter la pierre, puisqu'il y a déjà au moins un travail, mais souvent ça, c'est un peu le symptôme également d'une non-prise en considération des publics, ou alors en tout cas une volonté de ne pas les prendre en considération. On y reviendra après. Les expulsions, à regarder à hauteur de ces chiffres de 15 à 20 000 personnes, c'est 21 000 personnes expulsées en 2013. Donc soit plus que le nombre de personnes qui est sur des terrains, il faut imaginer ce que ça produit, 14 000 en 2014 et 11 000 en 2015, d'après les chiffres de la LDH et ERC. Donc on se dit, chouette, ça descend. En fait, surtout ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a 25% des terrains expulsés, sur les 116 qui ont été expulsés cette année. Ça devient compliqué, là. Il y a 25% des 116 terrains qui sont à qui on propose, à quelques personnes, quelques nuitées d'hébergement. 25%. C'est-à-dire que la circulaire, il faut rappeler que la circulaire 2012 essaye de dire que ce serait bien qu'on s'occupe de l'hébergement, le logement, de l'accompagnement des personnes quand ils sont expulsés. Aujourd'hui 25%, en 2013 40%. Voilà ce que c'est l'application de la circulaire. Ça, les conséquences, bon, elles ont été beaucoup rappelées par Médecins du Monde, par Alexandre, par... j'ai oublié ton prénom.
Karine.
Karine. Enchanté. Donc, ça a des conséquences, la fragmentation des personnes, l'invisibilisation, et ça, l'invisibilisation, on ne voit pas le danger, mais je rappellerai Carrière sous Poissy, des personnes qui se retrouvent dans une forêt sans que personne ne sache qu'ils étaient là, et une jeune fille qui meurt dans un incendie, je ne veux pas faire pleurer, mais voilà ce que ça peut avoir comme, comme conséquence. Une coupure du suivi social, qui est organisée en plus pour grande part par la société civile et un peu par les organismes publics. Coupure du suivi social, donc coupure des suivis santé, qui me semble assez important. Quand il y a un cas de tuberculose, par exemple, et que la personne est expulsée de lieu en lieu, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure façon pour essayer de je sais pas, gérer la situation, répondre à la situation en tout cas. La destruction des biens, comme ça a été rappelé, la destruction des biens qui font que les gens perdent ce qu'ils ont mis des années à avoir, puisque cet accès est difficile au droit commun, à la carte d'identité, au droit séjour selon les personnes. Et des conséquences psychologiques et humaines. Alors là, je vais juste faire... Je me rappelle de deux anecdotes. Il y en a une que Manon a en tête, c'est a priori un enfant qui, à chaque fois qu'il voit un uniforme maintenant, à force d'être expulsé, a des crises d'angoisse. Elle pourra confirmer cette anecdote. Et Livia qui disait que dans le 93, les gens ont beaucoup de méfiance envers la société civile maintenant, puisqu'à force d'expulser, elles n'ont plus d'espoir qu'on puisse les aider. Voilà les conséquences psychologiques et humaines les plus simples. Et puis, on ne parle pas des traumatismes sur ces générations et générations qui sont expulsées depuis 25 ans, voire même plus, je ne sais pas non plus le quantifier. Et puis, anecdote aussi, la question financière. Quand on voit Migrom qui calcule à 400 000 euros pour un même groupe de personnes expulsées, on peut se dire qu'à 400 000 euros, on aurait pu faire un beau projet. Tout ça, en tout cas, montre qu'il y a un manque de volonté publique pour affronter sérieusement cette situation. Bannissement par le rapport de Rome Europe, moi je dis stigmatisation croissante dans l'opinion publique, qui est relayée par les pouvoirs publics eux-mêmes, et qui ont créé une étiquette Rome qui veut rien dire, comme on l'a dit, comme en 1960 on parlait de Français musulmans d'Algérie dans les bidonvilles. C'est à peu près le même genre d'étiquette, en sachant qu'il y avait 40% d'Espagnols, 20% de Portugais, 20% de Français, d'après l'État. On voit qu'on est à peu près sur les mêmes logiques. Pourtant, on considère donc que c'est les effets de cette crise du logement et d'un accès difficile, voire rendu difficile au travail par les mesures transitoires qui ont sûrement été beaucoup plus... comment dire ? Qui expliquent beaucoup plus cette situation qu'une question communautaire ou culturelle. Personne ne veut vivre ou ne choisit de vivre en bidonville comme à la rue. En tout cas, j'aurais du mal à dire le contraire. Et c'est surtout pour rappeler qu'en France, on se base quand même dans un pays, on se glorifie de valeurs qui sont celles d'une égalité en droit, sans distinction communautaire et culturelle, et que chacun a un projet de vie, de carrière, d'éducation, et une volonté de vivre de manière digne. Je pense que personne n'a envie de vivre de manière indigne. Et je pense que, en fait, finalement, c'est cet accès au droit commun. Et l'étude de trajectoire le démontre fortement, c'est que ce n'est pas le droit commun qui est un problème, c'est bien son accès. Son accès qui est rendu encore plus difficile par cette stigmatisation et cette étiquette collée au bidonville. Et que les expulsions ne font qu'aggraver, et surtout déplacer les situations des personnes pour ajouter de la misère à la misère. Et je pense que, pour conclure, que la résorption des bidonvilles doit s'inscrire donc dans une résorption de la crise du mal-logement, au risque en tout cas d'une réussite éphémère. Pour la note positive, il y en a une en tout cas, c'est qu'on a su le faire un moment, peut-être un peu mal, mais j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble, tous ensemble, dans cette grande étiquette qui est l'empowerment. Je veux dire, en tout cas sur les terrains, avec les familles et avec toutes les associations et les pouvoirs publics. Et j'espère qu'on en prend la marche avec toutes ces conférences régionales et autres décisions actuelles.
Merci. Alors, il me paraissait important...